L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
S'il y a un sujet en ce moment qui est sans doute très compliqué à aborder et en même temps extrêmement nécessaire, c'est bien le bonheur. Et aujourd'hui, je reçois Alexandre Jost, qui est le fondateur de la Fabrique Spinoza, qui est un mouvement autour du bonheur citoyen, qui fait des études, du conseil, qui est également une communauté de bénévoles. Et avec Alexandre, pendant les 40 prochaines minutes, on va parler du bonheur en ce moment, dans cette période de Covid, du bonheur en ce moment, dans cette période complexe, très compliqué. Comment on peut être heureux, comment on peut garder espoir, vers quoi. Donc je vous laisse écouter cette conversation définitivement positive. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Grégory.
Est-ce que tu te sens heureux aujourd'hui?
Oui, c'est une belle journée aujourd'hui. On pourra voir ce que c'est qu'être heureux, mais en tout cas, je me sens au minimum joyeux en cette journée.
Parfait. Donc, tu es le fondateur de la Fabrique Spinoza.
Oui.
On parle beaucoup de Spinoza et de bonheur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Spinoza... rapidement peut-être, mais, enfin pas spécialement rapidement d'ailleurs, c'est quoi les théories de Spinoza autour du bonheur et pourquoi on en parle autant depuis quelques temps?
Je me demande si c'est pas Nietzsche qui a dit on a toujours deux philosophes qu'on aime, son préféré et Spinoza. Il y a quelque chose comme ça. Spinoza, je pense que c'est l'un des premiers vrais modernes. C'est quand même l'un des premiers psychologues et dans son livre L'éthique, il a une partie entière qui est consacrée aux émotions, à l'analyse des émotions et comment elles découlent les unes des autres. Donc il nous examine avec clémence et avec réalisme comme des êtres d'émotion et sans les condamner. Et je trouve qu'aujourd'hui, à une époque d'anxiété mais aussi de joie, en tout cas d'ascenseur émotionnel, avoir un philosophe qui s'intéresse aux émotions, c'est inspirant. Et puis, pour aller un peu plus dans ce sens-là, c'est un philosophe de la joie. Et il dit quand même que la joie et l'atteinte, c'est un plus haut degré de perfection de soi-même. Donc ça, je trouve ça aussi inspirant. On n'est pas uniquement dans le royaume de la morale ou de la vertu. Bien sûr, il y a la question de la bonne vie qu'il aborde, mais il s'intéresse à une vie qui permet d'atteindre la béatitude et la joie. Et puis, son autre manière d'être moderne, c'est qu'il a quand même donné lieu à des livres qui croisent philosophie et neurosciences, avec un livre de Damasio, L'erreur de Descartes, et puis l'autre, Spinoza avait raison. Alors forcément, j'aime bien ces livres. Et dans ces livres-là, c'est Damasio qui fait un parallèle entre la pensée de Spinoza et ce qu'on a découvert en neurosciences. Donc c'est l'un des premiers, on pourrait dire, neuroscientifiques sans le savoir. Et seulement 25 ans après Descartes, il est quand même à postuler une unité du corps et de l'esprit, en tout cas une non-dualité. Mmh. Et ça aussi, je trouve ça inspirant. Donc in fine, alors il avait un gros défaut, c'est qu'il était quand même il était misogyne. Il a dit « les hommes règnent, les femmes sont régies et le monde est ainsi conforme à l'ordre naturel des choses ». Bon, c'est pas terrible, mais on est en 1650. Terrible. Donc... en résumé, c'est un démocrate, il croit en la joie, il est clément avec nous, il équilibre raison et émotion. Et pour toutes ces raisons-là, eh bien pour nous, c'est à la Fabrique Spinoza, justement, c'est une effigie et une inspiration.
Mmh. Alors effectivement, sur le côté misogyne, on va perdre des gens, mais on va essayer de mettre ça de côté si tant est que ce soit possible. On est dans une période compliquée. On est dans une période compliquée parce que il y a eu le confinement, parce que il y a maintenant cette idée où on est censé rentrer chez nous à 21h, on peut plus trop parler, on a des masques, ça coupe les émotions justement. On a eu dernièrement un attentat. Comment on fait pour être heureux dans ce contexte? Est-ce qu'on peut continuer à être heureux dans ce contexte en fait?
Quand on a échangé avant l'émission, tu m'as dit que tu me poserais cette question et au moment où je l'entends, elle me paraît encore plus difficile. Je dirais que pour commencer, à défaut d'être heureux, il faut s'autoriser à l'envisager et donc poser la question. L'objet social de la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen, on a eu des moments sombres. Hein. C'était que 90% des gens soient heureux en France et ça sent un peu le totalitarisme. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'un objet social plus raisonnable, hein, c'était de placer le bonheur au cœur de la société. Et le placer au cœur, ça veut dire en débattre, comme on le fait aujourd'hui, s'interroger s'il est possible, effectivement par quel moyen, mais d'abord poser la question de sa possibilité, de sa pertinence. Et ce auquel je crois profondément, à la fois en termes de, comment dire, idéologique, mais aussi en termes de vécu, c'est que quand on parle de bonheur, ça génère de la joie. Il y a une forme de prophétie auto-réalisatrice. Les gens aiment parler de ça. On aime parler de ce qui ne va pas, mais on aime aussi parler de bonheur. Et avant de créer la Fabrique Spinoza, j'avais créé les Dîners du Bonheur qui intéressaient et captivaient des amis. Tout ça pour dire que l'un des fondements de la Fabrique Spinoza, c'est de dire que le bonheur est un sujet inspirant, parce que c'est notre aspiration à chacun d'entre nous, consciente ou inconsciente, à droite ou maladroite, d'être heureux, que c'est un sujet qui est susceptible de nous guider en tant que société, qui a autant, si ce n'est plus, de vertus à s'interroger sur comment créer un cadre de vie collectif, de coexistence qui nous permet d'être heureux, qu'à s'interroger sur comment vaincre le terrorisme, l'islamisme, le Covid, la fin du multilatéralisme. Il y a autant de vertus à penser à bâtir qu'à penser à défendre. Et puis troisièmement, le bonheur est un sujet inspirant et utile. Les philosophes disent qu'il a une valeur instrumentale en plus d'avoir une valeur finale. C'est-à-dire que je peux l'utiliser comme un outil en plus de l'utiliser comme un endroit vers lequel aller. Et pour exemple, quand les biologistes parlent du bonheur, ils peuvent avoir des définitions peu poétiques et ils vont dire « le bonheur est un état de fonctionnement optimal de l'organisme. » Optimal en termes émotionnels, en termes cognitifs, en termes intellectuels, etc. Et vu ainsi, le bonheur permet peut-être de prévenir la radicalisation, à nos organisations de mieux fonctionner, à nos démocraties d'embarquer les gens, aux entreprises d'être créatives, aux soignants d'avoir les bons protocoles. Et donc, chaque fois qu'on pose une question de société, le bonheur apporte des nouvelles réponses.
Mais alors, une question, parce que je sais que tu t'intéresses au bonheur individuel et collectif, et on va sans doute parler un petit peu de politique, mais je connais pas exactement les termes d'Emmanuel Macron lors de son dernier discours, mais il a dit entre autres qu'on n'était pas que des individualités, mais qu'on était un collectif d'individus, et que du coup, il y avait des obligations pour la collectivité, pour le bien de tous, mais donc du coup, en faisant ça, on réduit son bonheur potentiellement individuel pour le bonheur collectif. Est-ce qu'on peut vraiment associer bonheur individuel et bonheur collectif dans ce cadre-là? Parce que, tu vois, là, on est dans un cadre où on a un couvre-feu qui ennuie plein de gens, mais qui est pour le bien collectif.
Oui, je pense que c'est possible. Peut-être prendre du recul et s'interroger sur la démocratie et les termes même de liberté. Moi, au départ, je suis ingénieur, pas dans le champ des sciences politiques, mais si j'ai bien compris, la vision anglo-saxonne de la liberté, c'est une non-privation de liberté, une non-privation de capacité de mouvement. Et donc, il est, la liberté est définie outre-Atlantique comme par opposition à quelque chose. Alors qu'en France, la liberté passe par la création d'un cadre qui autorise certaines actions, certains comportements. Et je pense que, vu ainsi, eh bien, on peut avoir un cadre qui apparaît contraignant, mais qui, en fait, autorise des choses. Et on peut se dire que les gestes barrières, les masques, toutes ces choses-là, à la fois nous privent, vision anglo-saxonne, mais en même temps nous autorisent à continuer à voir nos seniors, nous continuent à aller travailler, et ainsi de suite. Et vu ainsi, oui, c'est une époque difficile, mais on fait au mieux pour garder un peu de tout dans notre vie. Un peu d'activité économique, un peu de lien social, un peu de prise en compte des générations. Ça, c'est une première réponse. Et après, une autre manière de voir les choses, c'est quand même de dire que là, on touche le dur, qui est qu'on porte atteinte à des fondamentaux de l'être humain, qui sont son désir de spontanéité, de lien sans embâge et direct avec l'autre. On restreint la liberté de mouvement, on empêche ou on restreint l'accès à la nature en conséquence de ces diminutions de capacité de mouvement. Donc on touche à des substrats fondamentaux. Donc on ne va pas se le cacher, ça reste une époque difficile. Mais la Fabrique Spinoza s'est définie comme le mouvement du bonheur citoyen. Et le lien avec la question, c'est l'appellation bonheur citoyen et non pas bonheur individuel. Et c'est le livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour l'altruisme, qui nous rappelle que le premier bénéficiaire de l'altruisme, c'est celui qui le prodigue. Mmh. Et donc, lorsque je restreins dans mon existence mes libertés pour le bien commun, eh bien, j'ai la capacité, si je prends du recul, si je conscientise ce que je fais, eh bien, de me réjouir de ce que je suis en train de faire pour le collectif. Moi, de temps en temps, je me dis, j'ai un micro moment de satisfaction quand le matin, je pense à mettre du gel hydroalcoolique avant d'ouvrir la porte de l'immeuble, en me disant, bon, ça m'a pris 3 secondes, mais j'ai fait un mini machin qui est bien pour l'immeuble. Je pense qu'à chaque instant, on peut choisir comment on regarde les choses, à la fois ce que l'on perd, mais notre contribution au collectif.
Donc pour toi, c'est une question de point de vue, en fait, le bonheur, finalement. Enfin, dans la manière dont tu le décris, c'est la manière dont j'envisage le monde modifie complètement ma manière d'envisager mon propre bonheur, la manière dont je me regarde, moi.
Bah, c'est assez étonnant de réaliser qu'en fait, le bonheur a été, bien sûr, réfléchi, pensé par des philosophes, mais aussi par des économistes. Et c'est l'OCDE qui, dans son guide de 2013, qui s'appelle Guidelines for Measuring Subjective Wellbeing, donc des guides et règles pour mesurer le bien-être subjectif. Dans cet ouvrage, eh bien, il suggère qu'il y a 3 formes de bonheur. Le bonheur émotionnel ou hédonique. Est-ce que dans notre podcast, toi et moi, on échange des bonnes émotions et quid de nos auditeurs? Ou est-ce qu'on est tous les deux stressés, anxieux, frustrés, machin? Bonheur, bon, j'espère que la réponse est claire, mais bon. Ensuite, bonheur cognitif, évaluatif, c'est est-ce qu'on est satisfait de notre vie en général? Est-ce qu'on recommanderait notre travail à d'autres? Donc là, on a des objectifs à atteindre. Est-ce qu'on les atteint? Et puis, troisième facette du bonheur, le bonheur eudémonique ou aspirationnel. Et je suis particulièrement sensible à celui-là. C'est est-ce que dans nos vies, même en ce moment, il y a quelque chose de plus grand que nous? Du sens, de l'appartenance, de l'utilité, de la reliance à une communauté, de l'amour, des choses comme ça. Et ces 3 facettes du bonheur font que la vie est belle. Mmh. Il faut qu'il y ait un peu des 3. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la réussite et il faut qu'il y ait du sens. Et vu ainsi, je pense que les moments qu'on traverse qui restent difficiles, Alors, je vais exclure les gens qui sont vraiment en grande difficulté, pas d'angélisme, hein, ceux qui ont perdu leur travail, perdu des proches, qui sont à la rue, etc. Bon, eux, ils sont dans le dur et il faut juste collectivement et avec l'État qu'on les aide. Mais pour nous autres, pour qui les choses vont pas si mal que ça en ce moment, je pense que c'est notre capacité à faire sens de ce qui se produit, à faire émerger du sens. Et c'est Deloitte, dans un rapport qui s'appelle « Sens interdit », en 2000, j'oublie la date, 2017, quelque chose comme ça, qui révèle qu'en entreprise, lorsqu'on interroge les gens sur « est-ce que le sens vient de vous, du manager ou de l'organisation ?», ils sont quand même 30% à dire qu'il vient du collectif. Et donc, le sens vient de soi et du collectif. Il se suscite, il se fait émerger. Et en ce moment, moi, j'ai l'impression que ce qui fait que je suis heureux, c'est plein de choses. Ma femme, mon petit garçon, le fait d'être en bonne santé, etc., mes parents. Mais c'est aussi de me dire, bon, je fais ce qu'il faut en ce moment pour faire ma part en cette période. Donc, oui, on porte atteinte en ce moment à des fondamentaux de notre épanouissement, mais on a chacun notre petite manière de faire pour contribuer à donner du sens à cette crise. Et pour terminer de répondre à ta question, Grégory, je crois que c'est de l'ordre de 70% des gens dans le baromètre de la fraternité qu'on a monté avec un collectif associatif, 70% des gens pendant le confinement qui avaient appelé des personnes âgées isolées pour prendre des nouvelles. C'est un tout petit geste, mais juste faire ça dans une journée, ça peut paraître ridicule en comparaison de la magnitude des enjeux auxquels on fait face, mais ça fait du bien et on fait notre part.
Alors là, j'ai plein de questions. Alors, du coup,
super.
Du coup, je ne sais pas comment je vais les t'en donner.
Ok.
Je vais te les poser. Je vais en poser au moins deux. Et puis après.
Tu me dis si je réponds plus court pour répondre à plus de tes questions. Hein.
Il y a une question qui est simple, l'autre qui est un petit peu compliquée.
D'accord.
La première qui est simple, c'est un des conseils qu'on nous donne beaucoup, qu'on donne beaucoup dans l'absolu, c'est de faire du journaling et en particulier le matin ou le soir, de réfléchir ce pourquoi on est. Heureux ou en tout cas qu'est-ce qui nous a rendu heureux dans la journée ou qu'est-ce qui va nous rendre heureux dans la journée et en quoi on est reconnaissant, reconnaissante. Donc ça c'est une question qui en est plus ou moins une, mais en tout cas qu'est-ce que t'en penses. Et la deuxième question qui est pour le coup elle plus complexe, c'est selon toi vers quoi on va et qu'est-ce qu'on peut espérer, parce qu'en fait je crois que dans le bonheur, dans la notion de bonheur, il y a aussi une question de projection et d'espoir. Et j'ai la sensation, en tout cas c'est mon cas, que dans cette période qui est très complexe, on a du mal, et je crois que le terme est assez faible finalement, à se projeter par rapport à ce qu'on a expérimenté avant, en tout cas sur les dernières décennies.
Alors,
la première est simple, la deuxième est plus complexe.
D'accord, je fais la première plus vite parce que j'ai très agréablement la deuxième. Mais la première, oui, c'est une technique qui est recommandé par des scientifiques, notamment issus de la psychologie positive. La gratitude est un muscle que l'on peut travailler, et ça me paraît important. Et là-dessus, toujours pour faire le lien entre soi-même et le reste du monde, se dire qu'on peut développer sa gratitude vis-à-vis de l'autre. Il y a des organisations qui font ça, qui suggèrent à leurs collaborateurs